ses mains et avança le buste, comme si elle eût voulu donner plus de poids à ses paroles.
« Qu'est-ce que t'en sais ? »
interrogea-t-elle. « Là, elle peut pas tomber deux fois au même endroit, tout le monde sait ça. » Marie crocheta ses doigts autour du coffret, petit bout de corde noué de phalanges zébrées de crevasses brunes.
« Parce que c'est toi qui décides où elle tombe ?»«
C'est pas ce que je voulais dire. »
« S'il était à cette table, je suis pas sûr que t'aurais osé. »«
Excuse-moi. » Mathilde ne disait rien, n'écoutait pas, apparemment insensible à l'orage maintenant suspendu au-dessus de la ferme. Elle semblait absente, son joli visage sali par la peur, une autre peur engendrée par un autre orage à venir. Un premier éclat de lumière empli de bruit transperça la fenêtre. Tout le monde se tut. D'autres suivirent en une série de flashs assourdissants qui allongeaient sporadiquement les ombres dans la cuisine avant de les réduire à néant, puis de les révéler à nouveau. Visage hébété, tour à tour enflammé puis éteint, face de cire figée dans la prière, cherchant quelques présages salutaires par-delà le tonnerre. Une déflagration assourdissante fit trembler les murs et, l'instant d'après, la pluie se mit à frapper les vitres, pareil à des graviers lancés contre. L'orage passait. Le grand danger était écarté. Victor regarda sa mère reprendre vie peu à peu. Les mains de la vieille femme tremblaient encore quand elle sortit une clé de sa poche, l'inséra dans la serrure du coffret et la tourna deux fois. Puis, elle fit basculer le couvercle, jeta un coup d'œil à l'intérieur et le referma, et rangea la clé dans sa poche en se penchant légèrement de côté, sa tête peinant à retrouver une stabilité comme une bulle d'air agacée sur un niveau. Victor ne quittait pas sa mère des yeux. « Va te recoucher maintenant, » dit-il. Elle ne bougea pas.
« Cet orage !» dit-elle en haussant le ton par-dessus la pluie qui s'abattait sur le toit.
« C'est bon, il est passé. »
« Là où tu vas, ça sonnera pareil, » dit-elle comme si elle parlait au coffret.
Victor jeta le revers de sa main en direction de la lampe et la flamme vacilla dans le courant d'air.
« T'en fais pas, on mettra pas bien longtemps à renvoyer les boches chez eux, la queue entre les jambes. » « Ils doivent penser la même chose, les boches. »
Le sergent recruteur a dit que c'était l'affaire de quelques semaines, ajouta Victor en se forçant à sourire. Marie leva la tête et les reflets de la lampe sur les verres de ses lunettes semblèrent creuser ses orbites.
« Parce qu'il sait le futur, ton sergent !»
lâcha-t-elle dans un souffle. D'un mouvement de tête, Victor encercla sa mère et sa femme dans le même regard. Il ne souriait plus.
« J'ai pas le choix, » dit-il.
La vieille femme approcha machinalement le coffret plus près encore de sa poitrine.
« Te fais pas esquinter, c'est tout ce qu'on te demande. »«
Je sais. »
« Et prends garde à la foudre !»
Marie inspira longuement.
« Tu donneras des nouvelles, »
reprit-elle.
« J'écrirai dès que je pourrai. »
« C'est demain que tu pars. »
« Je dois être à la gare dans la matinée avec César. »
Marie cala ses poings de part et d'autre du coffret.
« Il faut aussi qu'il nous prenne notre cheval, comme si ça suffisait pas. »
Léonard a dit qu'il vous donnerait un coup de main avec sa mule.
« Une vieille mule peut pas remplacer un percheron. S'ils en ont pas voulu, c'est qu'elle peut pas aider à grand-chose. »
Victor laissa s'installer un silence, espérant que sa mère continue d'évacuer cette colère légitime qu'il contenait, lui aussi. Mais elle ne le fit pas.
« Ils y connaissent rien, c'est rudement résistant, une vieille mule.
Et puis, ils nous rendront César quand la guerre sera terminée, » dit-il.
Marie hocha la tête avec dédain.
« Parce que tu crois qu'il va retrouver le chemin tout seul, peut-être ? »
« Ils vont le marquer, comme ça ils sauront qu'il est à nous. »
Elle haussa les épaules.
J'imagine qu'ils vont faire le tour de toutes les fermes pour nous ramener notre bien, dit-elle sur un ton cynique.
Victor leva un bras en l'air et laissa violemment retomber sa main sur la table.
J'y suis pour rien à la fin, dit-il. T'as parlé aux petits ?
demanda la vieille femme sans prêter attention aux dernières paroles de son fils.
Victor tressaillit, posant un regard voilé d'incompréhension sur sa mère.
« Il sait où je vais, » dit froidement Victor.
« Tu devrais prendre un peu de temps avec lui.
Je sais ce que j'ai à faire.
Et moi, je peux encore te dire ce que je pense. »
Marie leva les yeux sur sa bru, toujours prostrée.
« Qu'est-ce que t'en penses, toi ?»
Mathilde tourna lentement la tête vers Marie, rassembla ses mains comme si elle allait applaudir ou prier. Nul n'aurait su dire.
« Je sais pas ce qui vaut le mieux, » répondit-elle.
« Il y a des choses qu'il faut dire pour qu'on les entende. »«
C'est toi qui dis ça, » coupa Victor.
« Et alors, c'est mon droit. »
« Tu crois que j'ai besoin qu'on me fasse la leçon, en plus du reste ?»
lança Victor excédé. Marie soupesa le coffret, prête à se lever.
« Après tout, vous ferez bien comme vous voudrez, » dit-elle.
« Comme on peut !»
rétorqua Mathilde d'une voix sentencieuse. Victor fixait toujours sa mère et il y avait de la défiance dans son regard.
« Tu m'as jamais dit ce qu'il y avait dans ce coffre, »
observa-t-il. La vieille femme stoppa son mouvement.
« Tout ce qui doit jamais brûler, »
dit-elle. Puis, elle se leva pour ne pas avoir à donner d'explications supplémentaires et regagna sa chambre en emportant le coffret. Le rangea dans le tiroir de la commode qui grinça en frottant sur le socle massif. Assise sur son lit, Marie écouta la pluie qui faiblissait de minute en minute, attendant que pointe le jour. La pluie cessa bien avant l'aube. Plus tard, une lueur contourna les volets et se figea sans vraiment pénétrer à l'intérieur. Une tourterelle se mit à chanter quelque part sur le faîtage, accompagnant les gouttis. Marie était prisonnière de funestes pensées qui se propageaient dans sa tête comme une coulée de boue glacée. Si Victor ne devait pas revenir de la guerre, elle perdrait tout. S'affaisserait à la manière d'une herbe cisaillée par la faux, et rien n'y ferait contre une telle douleur. Pas même la présence de ce petit-fils qui lui ressemblait tant, qu'elle chérissait sans honte, à croire que ce genre de manifestation sautait les générations. Elle pensa aussi à Mathilde, si effacée, si fragile. Marie ne la sentait pas armée pour faire face à la place vide dans le lit. Ce désespoir qui saisirait sa bru, ce désespoir dont elle savait tout. L'expression tangible de sa peur n'avait rien à voir avec un vide quelconque, mais plutôt avec son propre effondrement de mère. Une paralysie intérieure dont elle ne voulait surtout rien montrer, et qu'il avait prise depuis que les cloches de Saint-Paul s'étaient mises à sonner à contre-temps. Marie se sentait vieille, bien trop vieille pour se suffire du labeur. Son cœur et son corps fatigués auraient eu besoin d'être ménagés. Mais elle haïssait le repos et le haïrait infiniment plus lorsque son fils serait parti pour la guerre. Elle savait ce qu'une femme peut finir par accepter. Une mère, jamais. Les nuits d'orage, d'habitude, on réveillait Joseph pour qu'il s'habillât en hâte et se tînt prêt à partir au cas où la foudre tomberait, que l'incendie prendrait. Son grand-père était mort de cette façon, foudroyé au beau milieu de la cour pendant qu'il bâchait le puits qu'il venait de maçonner. Depuis ce jour, le moindre coup de tonnerre terrorisait sa grand-mère. Joseph avait 7 ans quand elle lui avait froidement raconté le drame, sans préciser la date, ni plus détailler les circonstances de l'accident. Il y avait 8 années de cela. Sans jamais oser poser la question, Joseph s'était toujours demandé ce qu'il était resté de ce grand-père après l'impact, ce qu'on avait bien pu mettre de lui dans son cercueil. Il avait vu plus d'une fois ce que la foudre pouvait faire à un arbre, imaginant alors les désastres sur un corps humain. Cette nuit-là, Joseph se leva sans faire de bruit, résistant à l'envie de rejoindre le reste de la famille dans la cuisine. L'oreille collée à la porte, il écouta la conversation, persuadé qu'il n'en aurait pas dit autant en sa présence. Une suite de mots endoloris par le grondement du tonnerre. Quand l'orage se fut éloigné, des pieds de chaise raclèrent le plancher gauchi, puis ceux du banc, et Joseph retourna vite se coucher.
Des pas discrets se rapprochèrent de la porte de sa chambre, ralentirent.